Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du podcast Outlab sur Auto Hebdo. Écoutez, voilà, nous sommes là, comme d'habitude, nous sommes trois autour de la table pour parler Formule 1. Et évidemment, comme il n'y a pas eu de Grand Prix depuis quelques semaines maintenant, on va revenir ce week-end avec le Grand Prix de Las Vegas qui se déroule où, messieurs ?
À Las Vegas.
Bien vu, Dorian Granger qui est à ma gauche. Déjà, vous le voyez, il est déjà complètement réactif. Ça fait plaisir. On va parler des Grands Prix en général et un petit peu de l'évolution de ce calendrier du championnat du monde de Formule 1, puisque Monaco a été prolongé jusqu'en 2031. Le circuit de la Principauté accueillera donc encore la Formule 1 pendant quelques années, mais on a eu quelques petits échos, quelques déclarations aussi qui feraient état notamment de certains changements avec des Grands Prix en alternance qui pourraient arriver. Donc on va un petit peu vous éclaircir tout cela et en discuter aussi. Est-ce que finalement cette alternance ne risque pas d'enlever quelques Grands Prix en Europe, mais est-elle aussi nécessaire au vu de tous les pays qui veulent arriver en Formule 1? Dorian, justement, qui a été au taquet, comment va-t-il aujourd'hui?
Ça va très bien et toi, Michael?
Ça va très bien, merci beaucoup. Écoute, on est bien. Voilà, on rentre dans les mois d'hiver, mais rassurez-vous, il reste encore 3 Grands Prix de Formule 1, donc on fait tout de suite la pause. Oui, on n'appelle plus ça une intersaison, on appelle ça une pause maintenant, parce que c'est beaucoup trop court. À ma droite, Gonzalo Forbes, comment ça va?
Ça va très bien, lundi sous la grisaille parisienne aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas gâté.
On va débuter donc cette émission en parlant notamment du Grand Prix de Monaco. C'est donc officiel, le Grand Prix de Monaco restera au calendrier du championnat du monde de Formule 1 jusqu'en 2031. Au moins, on n'est évidemment pas à l'abri qu'il y ait une renégociation de ce contrat et que ça se prolonge encore une fois, mais l'Automobile Club de Monaco, via la voix de son président Michel Boris, s'est montré soulagé d'avoir pu déjà prolonger ce contrat, qui est accompagné d'une concession, puisque le Grand Prix de Monaco va changer de date à partir de 2026. Donc l'an prochain, il aura toujours lieu fin mai, comme c'est le cas habituellement, le 25 mai 2025, mais à partir de 2026, le Grand Prix aura lieu la première semaine du mois de juin, notamment, si j'ai bien compris, pour pouvoir aussi peut-être décaler le Canada, qui avait lieu habituellement en juin, et qui aurait lieu donc après Miami, histoire de regrouper les Grands Prix nord-américains entre eux. Mais voilà.
La régionalisation du calendrier.
Exactement, Gonzalo.
Ce qui est logique en soi, parce que le Canada, c'est vrai que ça a toujours été une épine dans le pied pour les organisateurs, parce qu'il fallait faire Bakou, Canada, en revenant en Europe,
Miami.
Donc au final, c'était des allers-retours un peu inutiles en soi.
C'est ça, on avait le Grand Prix de Miami, on s'est dit, l'arrivée de Miami va permettre justement de les regrouper, mais Monaco est encore là avec ce contrat qui lui conférait une certaine date, donc on a réussi à avoir un petit peu de flexibilité au niveau de ces calendriers, et il faudra s'habituer à venir à Monaco au mois de juin, ce ne sera pas beaucoup plus tard que d'habitude, mais en tout cas, ça se prolonge, mais est-ce qu'il ne va pas falloir aussi peut-être se pencher sur des modifications, Dorian ? À ce week-end monégasque, qui a changé il y a quelques années. On rappelle que maintenant, on roule le vendredi, ce qui n'était pas le cas auparavant. On roulait le jeudi pour les essais libres.
C'est une modification mineure qui a changé. C'était une spécificité de Monaco. Franchement, ça n'a pas changé grand-chose. Non, là, il faudrait...
On enlevait à Monaco un statut, enfin, une spécificité, justement, qui lui faisait être le seul Grand Prix qui était un peu différent.
C'est sûr, et ça permettait le vendredi d'avoir des galas, un peu une sorte de la touche glamour, on va dire, de la Formule 1 à Monaco. Mais... pour rendre le Grand Prix de Monaco plus excitant, il va falloir aller bien au-delà d'un simple changement de jour d'essai. On l'a encore vu cette année, et en plus cette année, il y a eu le phénomène avec le drapeau rouge au premier tour qui a permis aux pilotes de faire toute la course sans s'arrêter, ce qui était un peu dommageable parce que c'était une course très ennuyante, on va dire.
Très longue.
Très très longue, ouais, voilà. Mais il va falloir faire des changements plus concrets. On reviendra sûrement là-dessus plus en détail, mais des changements de format, des changements peut-être même de réglementation pour ce week-end-là en particulier, des changements sur le tracé. Ça fait des années qu'on évoque que le fait que le tracé aujourd'hui il correspond plus aux Formule 1 modernes qui sont bien plus lourdes, bien plus larges et où les dépassements sont impossibles, très franchement, ou à moins d'une attaque kamikaze qui résulte en un accident ou une sortie de piste. Mais là, il va falloir des changements profonds. L'avantage d'avoir signé un contrat aussi longue durée, c'est que les organisateurs du Grand Prix de Monaco et la SEM vont avoir le temps de vraiment pousser la réflexion, de voir ce qui est possible de faire ou pas, même de tester éventuellement certaines choses. Donc c'est une bonne nouvelle, évidemment, que Monaco soit encore au calendrier aussi longtemps, parce que ça reste quand même, malgré tout, le joyau de la Formule 1, quoi qu'on en dise. Mais pour que sa place soit assurée à très long terme, il va falloir vraiment se poser les bonnes questions et faire des changements qui vont paraître radicaux, peut-être, mais qui sont peut-être nécessaires.
Bah déjà l'année dernière, on avait eu le rallongement du circuit qui avait été ressorti, c'est Jackie Stewart qui l'avait sorti dans les années 70, là, le dossier à nouveau sur la table. Et oui, comme dit Dorian, il faut peut-être un changement de format, pas un format sprint, c'est vraiment, comme dit Dorian, un format spécifique à Monaco, avec un règlement particulier à Monaco, c'est-à-dire, je ne sais pas, qu'on impose un nombre minimum d'arrêts, c'est-à-dire plutôt que 1, en faire 2, 3 obligatoires, avec des pneus qui vont durer moins longtemps. Bon, l'année dernière, on avait eu ça au Qatar, où on ne pouvait pas faire plus de 20 tours, mais ce n'était pas le règlement qu'ils voulaient, c'était juste la situation de la chaleur et les pneus qui ne tenaient pas. Mais c'est sûr, parce que là, comme l'a rappelé Dorian, on a eu le premier drapeau rouge au premier tour, et derrière, bah, tout le monde a mis les pneus durs, et au revoir. Quoi, parce que on sait qu'avec les F1 d'aujourd'hui, les seules chances de gagner quelque chose à Monaco, c'est dans les stands. C'est comme ça que Leclerc l'a perdu, c'est comme ça que Verstappen l'a gagné, c'est comme ça que Ricciardo l'a perdu par le passé. C'est que tout se joue en 2-3 secondes dans les stands. Et si aujourd'hui on n'a même plus ça, je ne sais pas comment Monaco va faire. Rallonger le circuit, oui. Est-ce que ça va changer quelque chose au spectacle? J'en doute, parce que le circuit ne sera pas forcément plus large. On aurait peut-être une ligne droite un peu plus longue sous le tunnel.
C'est ça, ça pour attaquer la rue Princesse Grâce, donc, qui est avant le portier.
C'est ça, et ça serait partir à gauche.
L'épingle, voilà. Et ça serait en gros de rallonger, il me semble, d'un kilomètre le circuit, d'avoir vraiment une longue ligne droite, en sachant que c'est relatif parce que la ligne droite, il y a le tunnel et il y a un virage, c'est pas possible de passer à deux de front quasiment.
Et ça reste
quand même.
Il y a la bosse à la sortie.
C'est bosselé, ça rendrait le circuit dangereux d'un certain sens. Donc,
oui, parce que l'échappatoire n'est pas énorme non plus.
C'est ça, est-ce qu'on mettrait une zone DRS à cet endroit-là? C'est pas sûr. On sait que par le passé, il y avait eu cette zone DRS sous le tunnel qui a été rapidement enlevée parce que justement, c'est très bosselé et c'est très dangereux. Donc, je sais pas si ça, c'est la solution. Après, on sait qu'à Monaco aussi, ils peuvent construire des sortes de terre-pleins sur la mer. Est-ce que ça serait pas aussi une solution à long terme? Alors, ça dénaturerait peut-être le circuit, certes. Mais aujourd'hui, le circuit comme il est, avec les monoplaces comme il est,
il
est devenu anachronique en fait. C'était très bien il y a 20-30 ans quand les Formule 1 étaient très petites, très agiles, avec une bonne traction en sortie de virage. Mais c'est aujourd'hui, il va falloir faire des changements, ou alors des changements sur les monoplaces. Oui. Mais dans ce cas-là, on sait qu'en 2026, elles seront un peu plus petites, mais ça ne suffira pas.
Oui, c'est ça. Et après, le Grand Prix de Monaco aujourd'hui se résume quasiment à cette adrénaline qu'on a tous, c'est surtout les pilotes, nous à la télé quand on le regarde. C'est le samedi. Tout se joue sur un tour.
Les qualifs sont
là, pour le coup, ça reste le Grand Prix, pour moi, l'un des plus époustouflants en termes de sensations de qualifs. Parce que ça va très vite, ça passe à des millimètres et ça touche même les rails à certains endroits. Fois que les qualifs du samedi sont passés, en général, on ne s'attend pas à vibrer le dimanche.
Ouais, le tour de Verstappen en 2023 reste...
Ah oui,
c'est un modèle du genre.
Dorian et moi qui sont allonsistes jusqu'au bout.
Mais je m'y ajoute, voilà. J'étais très très déçu.
Je pense qu'on a tous crié chez nous de rage.
C'est fort. Ah oui, le dernier secteur où vraiment...
Il leur donne avec 2 dixièmes de retard en plus.
C'était très fort. Mais alors, moi je trouve qu'on lui fait un procès un peu fort à ce Grand Prix de Monaco, parce que à vous entendre, j'ai l'impression que il y a 25 ans, c'était le Grand Prix où ça se dépassait sans cesse, où ça n'a jamais été le cas.
Non, ça n'a jamais été le cas.
C'était plus facile.
Mais forcément, disons qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça. Moi, j'ai des souvenirs de Sutil qui tentait des dépassements à l'épingle et ça passait. Aujourd'hui, tu tentes ça, tu te plantes soit contre le mec, soit contre le mur.
C'est ça. Aujourd'hui, il n'y a même plus les tentatives.
C'est un défilé. Ce Grand Prix de Monaco n'a pas été très passionnant au 21e siècle, certes. Les plus passionnants, c'est souvent parce qu'il y a eu de la pluie qui s'en est mêlée. Mais il y avait ce côté quand même d'incertitude. On n'entamait pas le Grand Prix le dimanche en se disant « Ok, c'est lui qui va gagner ». Là, aujourd'hui, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de pluie, si grand beau, c'est compliqué, quoi. C'est à moins d'une défaillance technique. C'est dur de se dire, ok, lui, il gagnera pas en partant de la pole. Mais.
Parce que même la place de l'erreur, elle est... évidemment, elle est toujours là, mais tu peux rouler moins, plus doucement, oui. Et t'es quand même assuré à 95% la voiture derrière va pas te dépasser.
Regarde Ricciardo en 2018 qui gagne avec 25 ou 30% de puissance en moins parce que ses systèmes de MGUK, MGUH fonctionnaient même plus. C'est pas normal, sur tous les circuits du monde, jamais de la vie, il gagne la course. Après,
En 92, Senna garde Mansell derrière lui alors qu'il roulait
devant autant
moins vite. Donc c'est...
Mais bon, quand on voit que Jackie Stewart, dès les années 70, poussait pour un changement de circuit, ça veut dire que le problème date pas des F1 modernes. Et même
c'est
si
amplifié,
c'est ça, ça s'est amplifié. Et même déjà dans les années 70, les gens se plaignaient
qu'il fallait faire quelque chose. Il y a deux sens de lecture. Il y en a qui diront que c'est le circuit qui n'est pas adapté, et d'autres qui diront que c'est les monoplaces qui ne sont plus adaptées au circuit. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on change ? Pour moi, c'est plus facile de changer uniquement le circuit Monaco au risque de le dénaturer et de le rendre un peu moins mythique. Voilà.
Bah oui, non, parce que ce serait le deuxième secteur qui changerait principalement.
C'est ça, mais finalement, le Grand Prix de Monaco, il a déjà changé depuis ses premiers Grands Prix dans les années 20-30 et puis depuis le début du championnat du monde. Il y a eu notamment la piscine qui s'est rajoutée, où il y a vraiment eu deux chicanes qui sont ajoutées. Avant, c'était une ligne droite quasiment. On a mis la nouvelle chicane à la sortie du tunnel, on a fait quand même 2-3 changements et finalement ça n'a pas tant dénaturé le circuit que ça. Donc je pense qu'il y a quand même des modifications qui peuvent être apportées sur ce circuit là sans vraiment le changer. Et puis de toute façon, la nature de Monaco, ça reste quand même aussi son environnement, le côté glamour, le côté joyeux de la F1. Donc si on change un ou deux virages, ça restera le Grand Prix de Monaco, il y aura toujours des virages
mythiques. On aura toujours la montée, le virage du casino, l'épingle, les virages finalement les plus emblématiques seront toujours là.
Je pense, oui, clairement. C'est ça.
Mais est-ce que le fait ici qu'on a des attentes peut-être un peu plus importantes maintenant envers Monaco, ça vient pas aussi peut-être du fait que désormais on a 5, 6, 7 grands prix urbains. On a rajouté, à l'époque, Monaco était le seul, c'était vraiment la respiration dans le championnat du monde. On avait ce circuit urbain qui était très... qui vraiment sortait du lot. Aujourd'hui, comme on en a beaucoup plus, en tout cas qui se prétend urbain, parce qu'évidemment, c'est pas toujours... totalement dans les villes.
Oui.
Peut-être que maintenant, Monaco a peut-être aussi perdu un petit peu de son côté spécial à cause de cette multiplication.
Oui, surtout avec les urbains qu'on a aujourd'hui, comme Bakou, Las Vegas, où c'est des lignes droites, on est à 350. Forcément, tu te dis, bah, pourquoi pas. Enfin, finalement, en ville, on peut rouler vite et dépasser. Là, avec Monaco, mais on peut pas. Mais oui, c'est la F1 moderne. C'est qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui ? Du show. Qu'est-ce qu'on n'a pas à Monaco le dimanche ? Malheureusement, c'est du show. Après, pour moi, c'est, et les pilotes le disent, c'est l'un des grands prix les plus difficiles d'année parce qu'il faut que tu sois pendant 71 tours concentré, parce que le moindre écart, bah, c'est simple, il n'y a pas de dégagement, tu tapes le rail. Mais oui, la nature de la F1 aujourd'hui est celle que on veut du show, on veut des dépassements, on veut rouler à 350, on veut du DRS, on veut limite les accrochages, alors qu'à à Monaco, aujourd'hui, comme le dit Dorian, le circuit... il est plus fait pour ça.
Ouais. Après, moi, je trouve pas que Monaco ait perdu de son charme parce qu'il y a une multiplication des circuits urbains. Pour moi, Monaco, ça reste Monaco, c'est très spécifique. Et aujourd'hui, le souci de Monaco, c'est effectivement cette comparaison avec les nouveaux circuits urbains où tu prends Las Vegas, tu prends Azerbaïdjan, c'est des circuits, ouais, urbains, mais t'as quand même des lignes droites qui font quasiment 2 km.
Madrid, donc, ça sera la même chose.
Madrid, ça sera pareil. En fait, le seul qui peut vraiment se comparer à Monaco, pour moi, c'est Singapour. Mais c'est un autre style, c'est un autre charme, et c'est possible aussi de dépasser à Singapour. Il y a quand même 2-3 lignes droites assez sympas, mais Monaco, ça reste une exception. C'est vraiment là où le pilotage se sublime, alors que quand tu regardes les autres circuits urbains, bon... C'est moins dangereux, on va dire, que Monaco. Donc il y a toujours ce charme-là. Aujourd'hui, la question, c'est comment Monaco doit capitaliser sur son histoire, sur son côté glamour, sur son côté jet-set, spectacle. Aujourd'hui, je pense qu'on ne fait pas assez autour du Grand Prix de Monaco. Ça devrait vraiment, un peu comme l'Indy 500 en IndyCar ou 24 heures du Mans en WEC, ça devrait vraiment être la course image de la Formule 1. Et aujourd'hui, je trouve qu'on n'en fait pas assez. Il y aurait 10 000 choses à faire. Je prends l'exemple du MotoGP qui a fait le truc des livrets pour ses 75 ans. C'est débile et ça prendrait pas tant de d'argent pour les équipes. Ils font des livrets spéciales sur tous les grands prix maintenant. Donc, très franchement, tu dis ok, Monaco, c'est une course classique, c'est le joyau de la F1. Les équipes, elles sont autorisées à faire une livrée rétro, une livrée futuriste, peu importe, on s'en fout. Mais voilà, il faut jouer à ce côté spectacle. Je pense que Monaco manque et la Formule 1 n'optimise pas, on va dire, l'histoire et le glamour qu'il y a autour de Monaco. Et si on veut vraiment que Monaco ressorte du lot par rapport aux autres circuits urbains, il faut vraiment capitaliser sur ce côté spectacle. Et en plus, ce qui est stupide, c'est que la Formule 1 aujourd'hui devient un sport de plus en plus spectacle. On le voit même en piste. Donc là-dessus, il y a vraiment beaucoup de choses à capitaliser.
C'est là où je voulais en venir, c'est que la F1, je ne dis pas qu'elle tient plus en compte, elle tient plus compte des monuments de la F1, on va dire, mais de l'histoire de la F1. Mais Monaco, pour le Liberty Media et tout ça, aujourd'hui, c'est venu un Grand Prix de plus. On a l'impression dans le calendrier.
C'est la même chose que...
Quand on voit que Monza doit faire des concessions aussi, doit réaménager, évidemment, parce que les garages doivent être plus larges pour les voitures qui sont plus larges, etc. Mais qu'on voit tous les chantiers que doit faire... et on parle de Monza quand même, on parle de Monza Monaco. Toutes les concessions que doivent aujourd'hui faire les Grands Prix pour obtenir ne serait-ce que même pas un ou deux ans de contrat. Là, Monaco, ils ont obtenu jusqu'en 2031, mais la CM disait, on a négocié pendant des mois et des mois. Et je pense qu'ils ont dû... Et là, c'est juste le changement de date qu'on connaît officiellement, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses derrière. Spa, ça fait des années que c'est menacé, alors que ça fait des années que c'est quasiment le plus beau Grand Prix de l'année. Le circuit est magnifique, les courses à chaque fois elles sont animées. Imola, c'est un peu revenu, on l'avait perdu pendant des années, mais là c'est revenu. Et c'est toujours menacé. Et par contre, la F1 cherche à multiplier les... je ne dis pas que ça ne doit pas être, ça doit pas faire partie du calendrier, mais on cherche à aller en Thaïlande, on part à Madrid en ville.
On veut faire des courses de destination.
C'est ça. Il y a plus ce côté historique de mettre en valeur l'histoire, de faire vivre l'histoire de la F1. Alors qu'aujourd'hui, si un promoteur qui arrive avec son million, Monaco, t'en as 20, désolé. Alors qu'est-ce que la F1 a besoin de ses 80 millions en plus? Pas sûr.
Tu vois, mais c'est pour ça, Dorian, effectivement, je comprends la comparaison avec Indianapolis et Le Mans, mais la différence, c'est que Indianapolis, c'est le promoteur et l'IndyCar, et les 24 heures du Mans, le promoteur, c'est la CO.
Ouais, ouais.
Et donc, comme Liberty Media n'est pas le promoteur de Monaco, quel est réellement leur intérêt à faire de ce Grand Prix-là un show monumental, alors que, évidemment, le show monumental commence dès mercredi du côté de Las Vegas, dont le promoteur est Liberty
Media. Voilà, c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est qu'on est en train, pas de trahir l'histoire, mais qu'on est en train de...
Des conflits d'intérêts.
De marcher un peu, de s'essuyer les pieds sur ça, parce qu'aujourd'hui, tu peux pas rendre Las Vegas aussi glamour, voire plus glamour que Monaco.
Ça le sera jamais.
Ça le sera jamais.
C'est sûr. Et Miami non plus, d'ailleurs.
Non plus.
Mais c'est très bien, justement, ça nous emmène sur la deuxième partie de ce débat que l'on voulait faire avec vous, puisque c'est notamment Michel Boyer qui a tiré le signal d'alarme. Alors, à la base, Stefano Domenicali a admis très ouvertement qu'on réfléchit à des systèmes maintenant d'alternance entre différents Grands Prix européens. On rappelle qu'il y a 24 Grands Prix dans une saison de Formule 1. Il y en a 9 ou 10, ça dépend si vous comptez l'Azerbaïdjan ou non. Mais comme l'Azerbaïdjan a accueilli un Grand Prix d'Europe, comptons-le. Donc 10 Grands Prix européens sur 24 pour l'instant. Et cette proportion risque encore de baisser dans les années à venir. Donc forcément, des circuits vont devoir faire des concessions ou accepter d'alterner une année sur deux. Michel Boyer, lui, a carrément tiré la sonnette d'alarme en disant qu'à l'avenir, il n'y aurait plus que 2 ou 3 Grands Prix en Europe. J'estime que c'est un petit peu violent quand même. Ça m'étonnerait qu'on arrive à ce point-là.
Dorian, une bonne théorie.
Je pense qu'il voulait dire 2 ou 3 circuits permanents qui auraient leur place chaque année. Style Monaco là pour jusqu'en 2031. Voilà. Je sais pas s'il a voulu vraiment dire ça, le président de l'Automobile Club Monaco, mais je pense que c'était dans cette optique-là. Oui. 2 ou 3 Grands Prix en Europe, j'imagine. Quand même très
oui,
peu.
Oui. Là, par contre, oui, si on à l'avenir, c'est 2-3 en Europe sur les 24, voire à 25, 26 qu'il y aura.
Oui, ça ferait beaucoup là quand même. Enfin, je ne vois même pas comment on pourrait aller.
Les médias mettent pas l'histoire de la F1 au centre, mais là, ça serait quand même. Là, il y aurait même plus d'histoire. Ouais. C'est aussi simple que ça. Parce que 2-3 contre en Europe, ce serait quoi? Monza, Monaco.
Surtout qu'en fait, il y a déjà plusieurs Grands Prix qui sont déjà prolongés pour une longue durée. Le Hungaroring qui est au-delà de 2030.
L'Australie, Bahreïn.
Je parlais des Grands Prix européens. Mais t'as quand même 2-3 circuits qui ont leur place assurée pour les 7-8 prochaines années, on va dire. Madrid.
Après, c'est vrai que si on regarde par exemple, je prends une année au hasard, mais donc 2029, par exemple, dans les contrats actuels, on a Madrid, Silverstone, la Hongrie. Et Monaco et l'Autriche.
Voilà,
ça fait 5 Grands Prix pour l'instant en Europe qui sont assurés de rester, mais bon, rien ne dit que ça ne va pas être le cas. Ça serait très peu. Enfin, s'il y a 2-3 Grands Prix en Europe, il en faut 10 aux États-Unis pour compenser. Ouais, donc,
qu'il y a la Thaïlande qui veut intégrer, il y a la Malaisie qui veut
revenir. Oui, il faut que la Malaisie revienne.
Il y a
l'Afrique
du Sud qui pousse.
C'est vrai. Non, mais c'est sûr que la Formule 1 est devenue un produit qui fonctionne beaucoup, hein, et forcément, tout le monde veut se l'approprier.
Surtout quand on voit Domenicali qui commence à vraiment insister sur les rotations, et en sans doute, les rotations qui vont finir par arriver vont pas concerner Las Vegas, vont pas concerner Miami, vont pas concerner le Qatar, ça va concerner qui? Tous les Grands Prix européens, forcément.
Je pense qu'effectivement, on n'est pas parti pour avoir un Grand Prix à Bahreïn, l'année d'après Arabie Saoudite, l'année d'après le Qatar. Non. Je pense pas. Voilà. Hein, on aura les trois. D'ailleurs, je crois que pour l'Arabie Saoudite, le fameux circuit de Qiddiya,
ça sera un deuxième.
Voilà, il y a des rumeurs qui disent que maintenant, ce sera le deuxième Grand Prix d'Arabie Saoudite et non plus un remplacement de Diriyah comme ça devait être le de Jeddah.
Est-ce que ce sera une surprise?
Pas forcément. Voilà. Donc c'est sûr qu'un Grand Prix européen devrait laisser sa place. On est d'accord, monsieur, pour dire que l'une des alternances assez évidentes, ce serait Pays-Bas et Belgique.
Oui. C'est triste, clairement. Mais parce que ça reste quand même, surtout Spa, mais ça reste quand même deux circuits avec très emblématiques, avec leur histoire. Enfin, surtout pour Spa, hein, parce que Zandvoort, ça reste quand même un très beau circuit.
Ah, puis c'est revenu il y a quelques années, ça va.
Voilà. J'ai quand même beaucoup de mal à voir un calendrier sans Spa. Hein. Ça serait quand même très triste. Ça serait un mauvais message aussi à passer.
Mais déjà, Spa commence à faire les concessions. C'est plus en août, c'est en juillet.
Enfin, mais bien sûr. Ouais.
C'est ces petits éléments-là qui nous font dire que on n'a plus de Grand Prix de France depuis 2022. La France, ouais. Ils l'ont dit ouvertement, le seul moyen pour qu'on continue F1, c'est la rotation. Et si la rotation qui pourrait se faire. Enfin, le seul moyen, c'est de se rajouter à cette possible rotation entre les Pays-Bas et la Belgique.
Ça donc, c'est un tous les trois ans. Hein.
Un Spa tous les trois ans.
Ouais, c'est pas terrible.
Non,
c'est sûr que. Mais alors, moi, je suis pas complètement contre le principe de la rotation.
Non, nous non plus.
Il faut qu'il reste. Je pense qu'on va être d'accord. 8 ou 9, au moins 8 Grands Prix en Europe, au moins un tiers de la saison. En Europe, je pense que c'est le strict minimum.
Mais surtout que les classiques y restent, quoi. Enfin, soit fixe. Hein. Ouais. Les Silverstone, l'Autriche, à chaque fois, bon, c'est revenu en 2016, mais à chaque fois qu'on y
2014 même.
2014, pardon. À chaque fois qu'on y a été, ça a été des beaux grands prix. Pourquoi pas inclure Madrid dans la rotation, par exemple. Enfin, c'est ces manches-là. Bakou, Bakou, à chaque fois, nous offre des belles courses, mais on sent qu'à l'avenir, ça sera les courses historiques qui vont être en rotation parce que. Justement, c'est un peu le problème aussi des rendez-vous historiques, c'est qu'ils se reposent trop, peut-être, au moment de négocier, sur le fait, salut, on est là depuis les années 50, ce qui est logique, mais on sent que c'est les plus menacés.
Bah, aujourd'hui, en fait, la F1 change tellement, un Grand Prix historique ne peut proposer que la course. Par exemple, rassurez-vous, hein, rien de mal, j'y ai grandi en Belgique, mais bon, c'est sûr qu'aller dire à quelqu'un, viens au Grand Prix de Belgique, tu pourras aller visiter Liège. Ça donne pas autant envie que d'envoyer. Après, c'est très sympa, mais je veux dire, forcément, aujourd'hui, les gens veulent se positionner. On vend Las Vegas pas pour le Grand Prix de Las Vegas, pour les casinos, les machins, pour toute l'expérience qu'on a autour.
Et Bahreïn, pourquoi ? Pour aller visiter.
Qatar, Bahreïn, visiter le désert, les chameaux.
Ils se vendent différemment. Voilà. Ils se vendent différemment, dirons-nous. Mais on veut aujourd'hui aussi ajouter beaucoup de ces destination races, des courses vraiment où on y va pour voir un Grand Prix, mais aussi pour aller en vacances. C'est aussi ce genre de choses que la F1 veut vendre aujourd'hui.
Donc après Liège quand même.
Ah, mais c'est très sympa, Liège. Moi, je suis le grand fervent défenseur de Liège. Et puis, vous avez Bruxelles qui est pas là non plus. Vous poussez un petit peu, vous êtes à la côte belge. Franchement, en juillet, c'est parfait.
Bah voilà.
Vous avez certainement les 3 ou 4 jours de beau temps en plus de l'été. Donc, c'est vraiment super.
On monte juste à 15 degrés, mais c'est très bien.
Oh, ben, il faut pouvoir faire des concessions. Comme les grands prix, Gonzalo, il faut soi-même faire des concessions quand on va là-bas. Encore une fois, ça n'était pas une critique. Hein, moi, je serais très content que Spa reste. Très clairement, mais ça peut expliquer aussi la position de la Formule 1 aujourd'hui.
Bah, de toute façon, aujourd'hui, il va falloir être un peu pragmatique. Les accords Concorde, c'est 25 Grands Prix max. Ouais. On est déjà à 24, donc on est quasiment à la limite. Aujourd'hui, tu as des candidatures du monde entier, dont plusieurs sérieuses, donc Arabie Saoudite avec Qiddiya, Thaïlande, Rwanda, Afrique du Sud... Je pourrais en dire encore 2-3 de plus.
L'Argentine avec Colapinto qui...
C'est vrai, ça pousse.
Qui a commencé à faire les travaux à Buenos Aires.
Mais oui,
ça
avoir
pourrait
le
être une possibilité.
Mais
aussi. Donc, à un moment moment, il va y avoir un blocage. La F1, on sait qu'elle veut absolument visiter des destinations exotiques. On sait qu'elle veut absolument retourner en Afrique. Et ça serait, pour le coup, une bonne nouvelle.
Oui.
Mais voilà, donc aujourd'hui, pour sauver les Grands Prix européens, l'alternance, c'est triste à dire, mais c'est peut-être la meilleure solution. Vaut mieux avoir un Grand Prix de Belgique tous les 2 ans que pas de Grand Prix de Belgique du tout. Vaut mieux avoir un Grand Prix de France qui est là une fois tous les 3 ans que pas de Grand Prix de France du tout. C'est triste. C'est un peu le sens de l'histoire que veut donner Liberty Media et la Formule 1. On parlait de pérenniser les Grands Prix historiques. Il y a toujours ce serpent de mer en mode est-ce qu'il faudrait pas assurer la place des 5 historiques. Donc je pense à Monaco, Monza, Silverstone, Spa... et après on peut considérer le Brésil comme historique ou l'Autriche ou peu importe.
Exemple,
est-ce qu'il y a toujours cette volonté-là de se dire ok ces 5-là c'est le cœur du calendrier et après on le construit autour. spoiler alerte, ça se fera jamais. Non. Parce que bon, dans ce cas-là, Spa, il paye plus et voilà. Mais voilà, il va falloir réfléchir à des solutions alternatives. Si on veut garder au moins un tiers du calendrier en Europe, malheureusement, pour nous Européens, je pense qu'on se dirige là-dessus. Et même au niveau de l'organisation des Grands Prix, ça leur coûtera peut-être moins cher aussi d'organiser un Grand Prix sur deux. Entre Zandvoort, on sait qu'il y a un peu en difficulté financière, et Spa, c'est pas forcément mieux non plus. Donc,
Tu profites quand même de l'aura de ce Grand Prix-là tous les deux ans, ce qui te permet sur la deuxième année d'en profiter quand même pour tes autres événements.
C'est ça, et au moins, t'es sûr que la billetterie, elle sera... tu vendras tes places à coup sûr, parce que si t'attends deux ans pour un Grand Prix, bon, c'est évidemment triste à dire d'attendre deux ans pour le Grand Prix de Belgique, mais voilà, au moins t'es sûr que tu peux faire tes recettes, donc voilà, il y a de ça aussi. On l'avait vu, hein, l'alternance c'est pas nouveau, on l'avait vu dans les années 2000-2010 entre Hockenheim et le NURB
en Allemagne.
Où,
mais c'était local, c'était local.
Et l'Italie pourrait faire de même du coup avec Imola et
Monza. Moi j'imagine mal un calendrier sans Monza quand même.
Bah ouais, mais c'est comme imaginer mal, malheureusement, il faut un calendrier sans Spa.
Sans Monaco, hein, ce que dit Michel Bourrier quand même, c'était pas si loin de pas rester au calendrier tout simplement. Hein.
Mmh. En sachant que le Grand Prix d'Imola est financé principalement par la région Émilie-Romagne, et que Monza c'est plus un truc de l'ACI, donc la fédération on va dire italienne et du gouvernement italien on va dire. Donc voilà, est-ce qu'il y a une mutualisation on va dire des coûts entre deux Grands Prix, ça pourrait être la solution? C'est quelque chose qui est potentiellement envisageable.
Mmh. On verra effectivement ce qu'il en sera, mais ouais, ces Grands Prix européens qui sont peut-être un petit peu plus en danger. Je regardais la liste. En fait, ce qui est terrible, c'est que sur les 24 qu'on a, si on prend en compte les considérations, on va dire, financières et de soft power, on sait par exemple, donc, bon, voilà, Bahreïn, Arabie Saoudite, Qatar, Abu Dhabi, c'est très compliqué d'imaginer s'en passer. Mais même au-delà de ça, c'est vrai que tu vois déjà difficilement sur les 24 qui existent, lesquels on pourrait enlever, sachant qu'il y en a beaucoup qui veulent cette 25e place qui sera de toute façon déterminée à un moment donné. Hein. Je pense que la Formule 1 ne va pas se priver de cette...
26 à la fin des accords concours. Hein,
voilà, il va falloir renégocier. Si la F1 est maligne, elle peut négocier 27 ou 28. Hein. Donc on n'est pas complètement à l'abri là-dessus. Ce qui permettrait aussi voilà, d'être certain d'avoir cette chose-là. Maintenant, je rappelle que si on dépasse les 26 Grands Prix, on sera officiellement sur une année. Il y aura plus de week-ends avec Formule 1 que sans.
Oui.
Ce qui serait quand même un changement de paradigme assez énorme.
En mode NASCAR.
Exactement. Et pourquoi pas 36? Est-ce que ce ne serait pas la solution?
Avec des play-offs.
Des play-offs,
Et des overtime.
Voilà, ce serait génial. Le Grand Prix d'Australie qui dure 4h12 parce qu'il y a des restarts. Voilà, ce serait superbe, peut-être, je ne sais pas. voilà, il faut penser outside the box, Dorian Granger. J'ai entendu dire quel enfer. Think outside the box.
Non, mais déjà, 24 Grands Prix.
C'est beaucoup.
Pour nous journalistes aussi, hein,
même, ouais, si même les pilotes,
équipes.
Demandez à Verstappen ce qu'il en pense des calendriers d'aujourd'hui.
C'est ça. Ça reste notre passion, mais une fois quand c'est trop, il y a un risque d'overdose. Et donc bon, un calendrier 24 Grands Prix, c'est déjà l'extrême limite. 26.
Max Verstappen, je peux le comprendre, Gonzalo, parce qu'il fait 24 Grands Prix de Formule 1 et 19 endurances de 24 heures sur iRacing. Donc oui, son calendrier est chargé maintenant.
Je peux
le comprendre. Le même week-end en plus, c'est ça qui est très fort. Bah oui, à un moment donné, il n'y a plus de place. Hein, il n'y a que 52 semaines. Ça devient compliqué. En tout cas, voilà. Le Grand Prix de Monaco va rester au moins jusqu'en 2031. On peut s'en réjouir tout de même parce que ce n'était pas garanti.
Oui.
Reste à voir la direction que va prendre la Formule 1 dans les prochaines années. On n'est pas non plus, parce qu'on était un peu alarmiste sur l'Europe ici, on n'est pas à l'abri que malheureusement cette hype généralisée autour de la Formule 1 baisse un petit peu dans les années à venir. On
n'est bah, pas
des oracles, ça commence déjà à stagner un peu. Hein. Et que peut-être que quelques-uns des nouveaux Grands Prix qui sont nés, on va dire, de ces nouveautés-là, risquent de perdre leur place. Rappelez-vous qu'on a eu une expansion très importante en Asie au début des années 2010, que la Corée du Sud n'est plus là, l'Inde n'est plus là.
On n'est pas à l'abri que ça revienne, parce que si je prends plus globalement le marché automobile aujourd'hui, avec toutes les marques chinoises qui dominent les marchés électriques et qui débarquent en Europe, d'avoir une deuxième course en Chine ou d'avoir de nouvelles courses en Asie, très franchement, on sait que la Corée du Sud veut revenir au calendrier d'ailleurs. Donc ça m'étonnerait pas aussi qu'on en retrouve là-bas, parce qu'on parle.
Ils ont construit la ville sur le circuit ou ça va, c'est bon.
Bah, je crois que c'est déjà sur un circuit qui est déjà créé, ou alors c'est à Séoul dans la capitale sud-coréenne, mais.
pas encore un Grand Prix en ville.
Voilà, non mais de toute façon, pour, je pense que les Grands Prix sur des circuits permanents vont devenir de plus en plus rares aussi. Et ça, on le voit déjà depuis une dizaine d'années. On voit que le Rwanda, qui est candidate pour arriver en F1, assure que ça serait sur un circuit permanent, mais plus ça passe, plus on se dit, ah, en fait, peut-être que ça sera dans la capitale. Donc voilà, parce que ça coûte moins cher que de construire un circuit. Les routes, elles sont déjà là, t'as juste à installer un paddock temporaire ou permanent, on s'en fout. Donc c'est beaucoup plus simple.
Il y a Détroit ou Chicago aussi qui voulaient en F1.
Oui, on peut faire, voilà. On peut faire 25 villes américaines si vous voulez, aucun problème.
Donc, ça va dépendre aussi de comment évolue, on va dire, au-delà du sport, on va dire, le marché automobile. On sait que le marché automobile en Europe se casse un peu la figure en ce moment. Donc faut être cohérent aussi là-dessus et réaliste par rapport à la place de l'Europe la place qu'a l'Europe dans l'automobile et dans le sport automobile.
On va répondre, comme on le fait tous les lundis, à vos questions que vous nous avez adressées sur l'Instagram d'Auto Hebdo, toujours la petite story du dimanche qui vous permet de voir et de nous poser vos questions. On a Enzo Sanchez qui nous demande, pensez-vous que Jorge Martin en MotoGP, vous l'aurez bien compris, jouera le titre en 2025? Non.
Non, j'ai pas trop suivi, mais j'ai cru comprendre qu'il part chez Aprilia.
Il part chez Aprilia, effectivement, et ça va être compliqué.
Voilà. Donc je pense qu'on a vite répondu, la question est vite répondue.
Je pense qu'il gagnera des Grands Prix. Je prends.
Oui, parce que l'Aprilia, elle n'est pas larguée. Et je pense que c'est un excellent pilote qui arrive à tirer la quintessence de sa moto.
Qui vient d'être champion du monde, on le rappelle.
Qui vient d'être champion du monde, notamment. Donc il aura aussi sa motivation.
Sur une privée, c'est ça?
C'est ça, sur une note. La Ducati officielle dans une écurie indépendante.
C'est voilà. Il aura l'occasion de tester l'Aprilia dès cette semaine aux essais d'après-saison. Donc il va avoir le temps de s'adapter à sa nouvelle moto.
Il aura 40 courses en prochain pour s'adapter. Donc
mais bon, l'année prochaine, on aura quand même un duo Bagnaia-Marquez chez Ducati officiel. La GP25 est, selon les dires, encore meilleure que la GP24, heureusement. ça risque d'être compliqué pour conserver la couronne pour Martin l'année prochaine.
On a Paul DRJ qui nous pose une petite question un petit peu historique. Il nous dit, est-ce que la Formule 1 avait à une époque deux voitures par pilote, comme c'est le cas en MotoGP? On rappelle qu'ils ont deux motos par week-end. Ça nous permet, messieurs, de dire un mot que nous n'avons certainement jamais prononcé dans cette émission. Mulet.
Mulet.
Ça y est, puisqu'il...
La voiture mulet.
Il n'avait pas deux voitures par pilote, mais il y avait trois voitures par équipe. Il y avait le mulet, qui était en général réglé pour l'un des deux pilotes, ce qui était toujours hilarant quand ils se rendent compte qu'elle était réglée pour le plus grand des deux, mais c'est le plus petit qu'on a besoin, ou inverse. Il fallait donc rapidement modifier ça, mais effectivement, il y avait le droit d'utiliser un mulet si...
C'est pas 98 ou
avec l'énorme carambolage.
Ou certains n'ont pas pu prendre le départ parce que les deux voitures ont été endommagées, et du coup, il n'y avait qu'un mulet pour les deux. Donc il fallait ou faire pierre-papier-ciseau, ou alors le décider en amont.
Mais aujourd'hui, on n'a même plus de mulet, et parfois, on n'a même plus de châssis de rechange. Sinon, demander à un sergent quand il a dû laisser le sien à Albon. En Australie.
Ou Albon qui n'a pas participé au Brésil, puisqu'il avait cartonné sa voiture.
C'est là où Bottas a un avantage, parce que lui, il a un mulet.
Ouf. On coupera ça au montage, Michael, je pense.
C'est soit on le fait, soit ça devient la bande-annonce. Donc voilà. La décision sera prise. Si vous nous entendez dire ça, c'est que la décision a été prise en faveur de Dorian. Et sinon, vous ne saurez pas de quoi on parle. On a fini 6-5 qui nous dit, avez-vous des conseils pour compenser le manque de NASCAR le dimanche soir? Eh bien, je vous conseille de dormir. Est-ce que ce ne serait pas la bonne chose? Profitons de ce Noël et de cet hiver auprès du feu, comme ça, avec un chocolat chaud ou un café.
De NASCAR, ça va, ça reprend dans deux semaines à peu près. Grosso modo, ça va, 36 sur 52 de l'année.
Ouais, mais je suis mortifié de me dire que la NASCAR a fini un mois avant la F1. Ça n'est plus dans mes habitudes.
Mais elle a commencé un mois plus tôt aussi.
C'est vrai.
Tout est relatif.
Puis il y a 12 courses de plus.
Là, pour compenser à NASCAR, on a les 3 Grands Prix de F1, si vous aimez ça. On a le rallye ce week-end, même si...
Pour ceux qui aiment
les heures tardives ou on va dire très matinales.
Il y a ce qu'il faut ce week-end.
Il y a ce qu'il faut. Et puis après, c'est vrai que en décembre, janvier, en général, il se passe pas grand-chose. Il y aura le Dakar plus tard. Enfin bref. Si vous aimez les sports mécaniques, de toute façon, on ne s'ennuie jamais. Et puis si vraiment vous vous ennuyez, vous écoutez les podcasts Auto Hebdo. Et puis là, avec tous les podcasts qu'on a fait depuis le début, je pense que vous en avez pour au moins 2 ou 3 jours.
Je pense que vous en mettez 5 ou 6 à la suite, vous avez une course de NASCAR. Donc il suffit de les écouter comme ça. On a un rage visuel qui demande, est-ce que la Formule 1 devrait suivre le format des week-ends MotoGP? On parlait des changements de format aussi pour Monaco notamment. Alors on rappelle, en MotoGP désormais...
C'est un sprint tous les samedis, c'est ça?
Alors voilà, il y a du sprint toutes les courses.
Et moi je vais répondre très directement... Non.
Merci ou Marc Coach.
C'est ça, c'est aussi simple.
Disons que, si on reprend l'exemple de Monaco, faire une course en plus qui ne sera pas forcément plus passionnant que le Grand Prix, et je vois pas l'intérêt.
Oh, par pitié.
En revanche, il y a quand même, moi je suis pas 100% contre les sprints, il y a quand même des circuits où c'est assez propice. Le Brésil, pour moi, ça doit être un sprint tout le temps, parce que c'est un circuit où ça fonctionne.
Comme l'Autriche.
L'Autriche, ça fonctionne, parce que c'est des circuits à l'ancienne, vallonnés, où la moindre erreur, t'es dans le gravier, et voilà, et t'as pas des parkings en dégagement, on va dire, en échappatoire. Donc il y a certains circuits qui peuvent être ciblés par la F1 pour faire des sprints, mais alors clairement, si vous me dites demain il doit avoir un sprint au Qatar, un sprint à Monaco,
mais il y en avait
un sprint, ouais, non mais voilà, mais
il y en a installé d'ailleurs,
c'est pas passionnant. Il y a certains circuits où des gens s'ennuient, pour rester poli, le dimanche, alors si en plus on va se taper une course sprint le samedi, non merci. La MotoGP, ça marche bien parce que c'est des circuits où c'est ouvert et tu peux fonctionner, tu peux dépasser de partout, donc finalement...
Ouais.
Et encore, tous les pilotes de MotoGP sont pas très contents de faire...
Ah non, ça augmente le risque de blessure, voilà. De chute...
Déjà qu'on sait à quel point c'est physique la moto...
L'an dernier, ça a été une hécatombe, cette année, ça s'est beaucoup mieux passé, heureusement, mais...
Non, ouais, mais qu'il y ait des sprints de temps en temps, oui, des sprints tous les week-ends...
Ah non, mais t'imagines 48 courses de F1 par an, ça ferait beaucoup.
Ouais.
Et enfin, la FLAF 25 qui pose une question que je prends personnellement en tant que personne ayant grandi en Belgique. Est-ce que Ott Tanak va aller piquer le titre à Thierry Neuville? Moi, je... Alors...
C'est difficile.
J'ai envie de dire non, mais je le sens tellement mal.
Non, mais c'est vrai que c'est tellement attendu. Et là, 25 points, il faudrait un cataclysme pour Neuville et un miracle pour Ott Tanak pour...
on n'est pas à l'abri, justement.
Pour chercher. Pour la faire course, il faut que Neuville termine 6e le samedi et il peut rouler à 10 km/h le dimanche. Tant qu'il finit le rallye, ça sera bon. En sachant que tu as un plateau de 9 pilotes,
ça doit pouvoir le faire. Mais...
En théorie, ça devrait le faire.
C'est l'incertitude du sport dans l'engranger. C'est ça qui fait qu'on va être stressé.
En fait,
quand même.
Thierry Neuville, il fait une saison très solide sur le plan mental. Il fait très peu d'erreurs. Mais toutes les années précédentes, il a fait une erreur qui lui a coûté cher. Et cette année, il n'en a pas fait. Donc,
voilà.
Ouais, mais quand on voit comment il roulait en Europe centrale, où il se sort deux fois, alors qu'il
fait des erreurs et tout. Ouais, voilà,
attention à la pression.
Mais là, franchement, pour perdre une avance de 25 points, je suis désolé, Michael. Voilà.
Je sais, mais ça peut.
Toutes les étoiles s'alignent pour Tanak, il faudrait qu'il gagne le rallye et tout. Voilà,
c'est peut-être la chose la plus rassurante, c'est que c'est Ott Tanak, quelqu'un où les étoiles s'alignent rarement.
Oui.
Malheureusement, il a beaucoup de malchance, Ott Tanak.
On a commencé à voir Neuville dire l'asphalte avec le froid, les feuilles, ça va rendre la chose très difficile. On se demande, on commence à se dire, est-ce qu'il a pas peur, le Thierry?
Mais oui, mais en fait, dites-vous que c'est tellement incertain quand même. Hier, par exemple, le Grand Prix de MotoGP, à aucun moment, Martin n'a vraiment été en danger. Il avait 19 points d'avance.
Ouais, il suffit d'une chute.
J'ai passé 24 tours à me dire, oui, mais il suffit de perdre l'avant une fois, c'est terminé. Enfin, c'est, voilà. Et en rallye, il suffit de se louper sur un virage, et Dieu sait qu'il y en a des virages en rallye.
Bah, l'avantage qu'il a, c'est
qu'il peut repartir.
Voilà, il peut repartir, et le dimanche, 2. Il y a encore 12 points.
Heureusement. Mais voilà, tout est toujours possible. Mais Tanak peut effectivement aller piquer le titre à Thierry Neuville. Maintenant, est-ce probable? Non.
On va dire qu'il y a 97-18% de chances que Neuville soit champion dimanche. Quoi.
Ouais, voilà. 62% de chances.
j'ai lu 64,7, mais j'ai vu des statistiques. Et on va terminer, messieurs, avec notre petit quiz. Alors, je ne peux pas résister à l'idée de vous refaire une petite grille, parce que sachez que ce jour, le 18 novembre, il y a eu 2 Grands Prix aux États-Unis.
Oui.
Bon, hein, en 2023, à Las Vegas, je sais que vous aimeriez que je vous donne des choses plus faciles, mais enfin, quand même, là, ce serait... Encore qu'on pourrait peut-être se tromper sur un Grand Prix de Las Vegas 2023, mais il y avait surtout le premier Grand Prix des États-Unis à Austin, oui, en 2012, le Grand Prix inaugural sur le circuit des Amériques. Écoutez, mesdames, messieurs, ils étaient 24 au départ de ce Grand Prix. Okay. Il va falloir tout simplement me les retrouver, Dorian.
Vas-y. Facile. Alors, on va commencer dans l'ordre. On va mettre Vettel.
Qui a fini deuxième.
Dans l'ordre du championnat.
Ah, dans l'ordre des numéros, d'accord, voilà. Pardon. Oui, effectivement, il avait le numéro 1, Sébastien Vettel.
Moi, je ne suis pas dans l'ordre. Mais bon, on va faire Vettel, on va faire Marc Weber.
Bravo, Marc Weber qui a abandonné sur problème d'alternateur.
Alonso, évidemment.
Et oui, troisième, Fernando Alonso.
Si on est Alonso, on dit Felipe Pahon, Massa.
Et il est où, Massa? Quatrième, non? Beau Grand Prix de Massa. Il n'y en a pas eu beaucoup en 2012, mais beau Grand Prix. Non, non.
Je vais dire, je Il me semble que c'est lui qui avait gagné le premier, donc je veux dire Hamilton.
Oui, Lewis Hamilton, vainqueur du Grand Prix, tout à fait.
Et on continue à pas trop réfléchir. L'ami Jenson.
Jenson Button. C'est bien, en fait, il est très content d'être deuxième à chaque fois. Voilà. Parce que Dorian doit trouver les premiers pilotes des équipes, puis il complète, tout simplement. C'est
attends,
pratique.
Attends.
Dorian.
Donc, on a fait les trois top teams. Donc, maintenant, voilà. On va dire Nico Rosberg.
Oui, Nico Rosberg qui finit déjà, non? Oui, où ça? Bah, au secours, je vois pas Nico Rosberg. Si, 13ème. Oh là là.
On continue, hein? Le baron rouge,
ouais, Michael Schumacher, 16ème. Moi, je sais pas vous, mais je sens qu'Hamilton, il a pas fait le bon choix en partant chez Mercedes.
Non, non, ils sont loin. Non.
Je lirais bien ça, par exemple, dans un collector d'auto hebdo. Ça me donnerait envie. Oui. Que je pourrais, par exemple, aller chercher dans un kiosque. Ou sur internet avec
ça
la version
bien,
numérique.
Et
qui,
ça,
et dont le papier, accessoirement, sur le transfert, a été écrit par quelqu'un qui enregistre actuellement le podcast.
Et c'est pas Dorian, et c'est pas moi non plus.
Voilà.
On va dire un certain Nico Hülkenberg.
Oui, 8ème Nico Hülkenberg.
Austin, pas loin de la frontière. Checo Pérez.
Oui, 11ème, mais il ne faisait pas équipe.
Non.
Donc ça y est, on a enfin coupé c'est bien, il joue, c'est bien. Dorian.
Pastor Maldonado.
Oui, 9ème.
Est-ce que Kimi Räikkönen?
Oui, bah oui, j'allais dire, il vous restait un champion du monde. C'était Kimi Räikkönen qui a fini 6ème.
Donc Dorian. Romain Grosjean.
Bah oui, Romain Grosjean, son équipier 7ème.
Oh, ça s'inverse.
Ah, voilà. Ça alors.
Est-ce que l'ami neveu d'Ayrton était là, monsieur Bruno?
Bruno Senna, 10ème, l'équipier de Pastor Maldonado, chez Williams.
Paul Di Resta.
Tout à fait, Paul Di Resta, 15ème.
Coéquipier, Adrien Sutil?
Aïe. Mais non, son équipier, c'était Hülkenberg.
Ah.
C'est l'année que Sutil rate, notamment pour avoir... utiliser une coupe de champagne, mais ça c'est encore autre chose. Mais non, malheureusement, il n'était pas là, Adrien Sutil. Attention, la prochaine erreur est éliminatoire. Dorian Grange.
Jean-Éric Vergne.
Oui, Jean-Éric Vergne. Abandon.
Oh.
Problème de suspension.
Triste.
Pour Jeff. Gonzalo.
Daniel Ricciardo.
Oui, Daniel Ricciardo, 12ème.
Charles Pic.
Bon, ça y est, ça sort les vrais noms maintenant.
Voilà.
20ème, Charles Pic.
Est-ce que l'ami Heikki Kovalainen était encore là?
18ème, tout à fait. Dorian.
Kamui Kobayashi.
14ème avec l'autre Sauber, l'équipier de Sergio Pérez.
C'est cette année-là qu'elle marchait très bien, la Sauber.
Oui.
Ou 2011?
Non, 2012. Bon, là, ils font oui. Effectivement loin, mais sinon, elle marchait bien le reste de l'année.
Elle est toujours là. Hein.
Oui.
Vous en faites pas, il n'y a pas eu de problème sur vos,
on est
sur vos écouteurs.
Je retourne au Brésil, Luca Di Grassi.
Et non, c'était 2010 la seule saison de Luca Di Grassi. Malheureusement, est-ce vraiment malheureux? Victoire de Dorian, incroyable.
Je peux essayer de finir ou pas?
Bon, oui, allez. Va se la péter.
Alors, Narain Kartikeyan chez HRT.
Oui.
Qui était accompagné. Alors, non, il n'était pas accompagné, j'allais dire Timo Glock, mais Timo Glock était chez Marussia.
Oui.
Donc, il était avec Charles Pic. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Il nous en reste combien?
Je crois qu'il en reste deux.
Il en reste deux. Pedro ouais. De La Rosa.
Ouais. Oui.
Chez HRT aussi. Et un chez Caterham, c'est ça?
Oui.
Dans Fernando Alonso pourrait dessiner l'arrière-train de sa voiture de 2010.
Ah, ok. Vitaly Petrov.
Vitaly Petrov, tout à fait, qui avait remplacé.
Oh, le cauchemar qui revient en moi.
Ah, c'est pas possible. Voilà, j'étais de bonne humeur. Et là, je ne le suis plus. C'est terrible.
Ouais.
Merci, Gonzalo. Comme dirait l'autre, au début, ça m'a fait sourire. Puis en deuxième temps, je n'ai pas souri. Bah là, c'est un peu pareil, si vous voulez. Je suis terriblement déçu. Mais écoutez, bravo Dorian pour cette belle victoire. Est-ce que vous revenez la semaine prochaine remettre votre titre en jeu?
J'espère que j'aurai un pneu Pirelli pour me récompenser.
Bien sûr, c'est prévu. Hein. On va lancer la production, ne vous en faites pas. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Gonzalo et Dorian. Merci à vous de nous avoir écoutés pour ce nouveau numéro d'Outlap. On se retrouvera évidemment lundi prochain. Et là, on parlera du Grand Prix de Las Vegas. Et
on
aussi forcément
hâte.
Un petit peu de WRC. Hein, parce que potentiellement deux titres ce week-end.
Oui, donc on a tous hâte.
Un titre et demi pour la Belgique potentiellement ce week-end.
Oh là là, c'est bon. Allez, à lundi.
À lundi.
Merci. Merci beaucoup.